Vous écoutez Europe 1, il est 22h. C'est l'heure du journal, Stéphane Place.
Nous déplorons aujourd'hui le décès d'une adolescente de 16 ans survenue en Île-de-France.
Une adolescente qui succombe au Covid-19 et un bilan qui s'alourdit encore ce soir en France avec 365 décès ces dernières 24 heures. Pour désengorger les services de soins alsaciens, c'est en TGV que 20 malades ont été évacués vers les Pays de la Loire.
C'est un dispositif novateur qui a déjà été testé en exercice de situation exceptionnelle. C'est la première fois qu'il est mis en place de façon réelle.
La crainte de voir le coronavirus se propager dans les prisons françaises, les avocats tentent d'obtenir des libérations anticipées. Le reportage dans ce journal de Jean-Luc Boujon, notre correspondant à Lyon. Une perte d'activité de 35%, l'économie française au ralenti. L'impact sera considérable, nous dira un expert. Pour faire face, le G20 annonce qu'il va injecter 5 000 milliards de dollars et un sommet européen est en cours, mais ce qui devait être une formalité a tourné au bras de fer. L'Italie a réclamé davantage de solidarité en direct de Bruxelles dans cette édition. Nous entendrons l'éclairage d'Isabelle Horry. Il avait offert au foot français sa première grande victoire internationale, l'Euro en 1984. Michel Hidalgo nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 87 ans.
5 matchs, 5 victoires, c'est tout à fait fantastique. Mes mérites sont surtout ceux des joueurs, c'est à eux qu'il faut tirer un coup de chapeau.
Et puis comme tous les soirs, les prévisions météo complètes d'Anissa Haddadi, top à Wall Street avec Claire Lemaître de boursier.com et l'invité écho d'Emmanuel Dutheil qui reçoit ce soir Frédéric Collet, le président du LEM, syndicat des industries pharmaceutiques, sans oublier la revue de presse des unes de vos quotidiens. Europe 1. 365 décès enregistrés dans les hôpitaux français et pour la première fois, vous l'avez entendu dans les titres, on déplore la mort d'une adolescente de 16 ans, une jeune fille tuée par le coronavirus en Île-de-France. Ce soir, un peu plus de 3000 malades sont en réanimation et souffrent d'une forme grave de la maladie. Clairement, l'épidémie continue de s'aggraver. La mortalité a particulièrement augmenté ces derniers jours dans le Grand Est, qu'il faut donc aider à absorber cet afflux important de patients, d'où l'opération inédite menée aujourd'hui. Une évacuation sanitaire par les rails. C'est à bord d'un TGV médicalisé que 20 patients ont quitté Strasbourg ce matin. Terminus à Nantes après un arrêt à Angers. Ces malades ont été transférés dans des hôpitaux de l'Ouest. Charles Guyard, vous êtes notre correspondant dans l'Ouest. Vous avez vu arriver ce TGV sanitaire.
C'était une première en France, peut-être même en Europe. Une évacuation sanitaire de 20 malades par voie ferroviaire dans un train spécialement affrété, composé de 2 rames, capables de se désolidariser. Ainsi, en cas de problème, celle transportant les patients et le personnel médical pouvait revenir au point de départ en Alsace sans se soucier de l'autre occupé par des agents SNCF. Il s'agissait donc d'un TGV, doté de voitures à 2 niveaux pour permettre aux médecins de circuler par l'étage supérieur pendant que les malades étaient, eux, installés sur des brancards fixés au siège, en partie basse. Après avoir quitté Strasbourg en fin de matinée, le train a emprunté un itinéraire inhabituel, transitant par Massy-Palaiseau pour éviter une correspondance à Paris. Il s'est d'abord arrêté à Angers vers 15h30 avant d'atteindre son terminus Nantes aux alentours de 17h. François Templier, chef de service au SAMU du Maine-et-Loire.
Ce sont des transports longs que l'on sait faire, avec bien sûr les particularités du nombre de patients qui peuvent être transportés et surveillés de façon simultanée. C'est un dispositif novateur qui a déjà été testé en exercice de situation exceptionnelle. C'est la première fois qu'il est mis en place de façon réelle.
Et les 20 malades ont été répartis dans les hôpitaux de la région, à Nantes et à Angers, puis après un ultime transfert par la route au Mans et à La Roche-sur-Yon, à près de 800 km de chez eux. Nantes, Charles Guyard, Europe 1.
On parle beaucoup de la pénurie de masques de protection et on s'interroge aussi sur le nombre limité de tests de dépistage du Covid-19 en France. Pour vous donner une idée, en Allemagne, on réalise 1,5 million de tests par semaine et le taux de mortalité n'y atteint pas 1%. Contre 5% en France. Invité ce soir du grand journal de Nathalie Lévy sur Europe 1, le président du conseil scientifique de l'exécutif, Jean-François Delfraissy, promet une montée en puissance des tests chez nous dans les prochaines semaines.
Il y a deux types de tests. Premièrement, des tests qui permettent de faire le diagnostic de l'infection de Covid. C'est un test qui est par biologie moléculaire. On en fait actuellement 8 à 9 000 en France. Dans 15 jours, on en fera 30 à 40 000 par jour. Je dis bien Je suis en train de parler par jour, là. Puis un deuxième type de test diagnostique qui va arriver probablement un peu plus tard et qui repose sur la possibilité de détecter ce qu'on appelle des anticorps, c'est-à-dire quand on vous fait, par exemple, un sérodiagnostic de rubéole ou un sérodiagnostic d'hépatite qui témoigne que vous avez été en contact avec le virus. Ces tests-là devraient arriver, je pense, d'ici 3 semaines, de l'ordre de 2 à 300 000 tests par jour. C'est l'approche de ces deux tests qui va nous permettre, qui va nous aider à probablement avoir une stratégie pour la sortie du confinement.
Jean-François Delfraissy, invité du Grand Journal de Nathalie Lévy ce soir sur Europe 1. À Marseille, les hôpitaux publics s'attendent à recevoir davantage de malades du Covid-19 dans les 72 heures, avec un pic début avril. Dans les Bouches-du-Rhône, les initiatives locales se multiplient pour soulager les établissements hospitaliers et les généralistes. Miramas a ouvert un centre de consultation Covid-19, première commune française à l'avoir fait. Nathalie Chevance, vous êtes la correspondante d'Europe 1 dans la région. Cette structure permet une mutualisation des moyens.
Oui, ne plus se contenter d'une simple consultation par téléphone. Vous avez des symptômes, votre médecin traitant vous envoie directement vers ce centre de consultation dédié. Là, c'est un gymnase qui a été entièrement sécurisé pour les patients et les soignants. Il y a des box de consultation et tout le matériel, masques, gants, blouses, pour un examen et un diagnostic approfondi, comme l'explique le docteur Meyer.
Le médecin se sert de cette plateforme pour faire l'examen des patients dans des conditions sécurisées. Et ce dispositif peut permettre d'avoir un examen qui élimine des mortalités soudaines. Ça évite de passer à côté de cas graves et qui pourraient avoir des conséquences vitales.
Et pour monter ce dispositif, une vingtaine de médecins et d'infirmiers bénévoles se relaient. La ville a engagé 100 000 euros, notamment pour l'achat du matériel. Frédéric Vigourou est le maire de Miramas.
Quand on a vu ce qui s'était passé en Italie, on avait commencé il y a 3 semaines. Et puis en même temps, il y a eu aussi des dons par des pharmaciens, par des entreprises, qui nous a permis de pouvoir mettre en place ce centre. Ce C3, ce qu'ils appellent, est un centre de soutien à la médecine locale, de proximité. Je crois que tous les maires de France essaye de faire la même chose. C'est une histoire d'efficacité, de pragmatisme, d'éviter d'avoir une contamination large.
Et depuis lundi, des dizaines de patients des communes alentours sont envoyés par leurs médecins dans ce gymnase. Une régulation en amont qui permet aussi de limiter la saturation des urgences.
Nathalie Chevance, la correspondante d'Europe 1 à Marseille. D'abord des masques et des respirateurs, c'est la réaction des élus d'outre-mer au lendemain des annonces du président de la République. Emmanuel Macron a annoncé hier l'envoi de 2 navires de la Marine nationale, 2 porte-hélicoptères dans l'océan Indien, aux Antilles et en Guyane pour aider à la prise en charge des malades du coronavirus. La crainte de voir le coronavirus se propager dans les prisons, on a appris aujourd'hui le décès d'un gardien de 54 ans à Orléans. Il était en arrêt maladie depuis plusieurs jours pour des symptômes du Covid-19. Il est mort d'un arrêt cardiaque. 10 détenus et 24 agents pénitentiaires ont été officiellement testés positifs. Les détenus et leurs familles sont très inquiets. De nombreux avocats essaient d'obtenir des aménagements, voire des libérations anticipées. Jean-Luc Boujon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Lyon. C'est le cas, notamment dans votre région.
Oui, c'est même l'essentiel de l'activité des avocats en ce moment, puisqu'ils ne plaident plus au tribunal. Les audiences sont annulées, ils ne vont pas non plus voir leurs clients en prison, puisque toute visite est interdite. En revanche, effectivement, ils sont très sollicités par les familles de détenus qui, très angoissés par l'épidémie, réclament des remises en liberté plus rapides. Il y a en ce moment 2 fois plus de demandes qu'en temps normal. Alors, il faut le dire tout de suite, c'est inenvisageable pour la majorité des détenus, mais c'est possible pour ceux qui sont en fin de peine, c'est-à-dire qui ont moins de 6 mois de détention encore à effectuer. Possible, mais pas du tout obligatoire, même si selon maître Arnaud Lévy-Soussan, avocat au barreau de Grenoble, les juges ont pris la mesure de la situation.
Le taux de réponse positive aux demandes de mise en liberté est bien plus important à l'heure actuelle qu'il ne l'est de façon générale. Quand les dossiers étaient tangents, lorsque les magistrats hésitaient, clairement là, ils n'hésitent plus. Moi, j'en ai fait pour l'instant quasiment 20. J'ai un certain retour plutôt positif pour certains clients qui sont en fin de peine, mais évidemment, on ne peut pas dire que ça fonctionne à tous les coups. Il n'a jamais été question dans l'esprit des magistrats, d'ouvrir les portes de la prison et de dire « s'il vous reste telle période à faire, vous pouvez sortir automatiquement ».
Voilà, une approche confirmée par le parquet de Grenoble, bienveillance oui, mais ni laxisme ni permissivité, simplement les dossiers sont désormais examinés à l'aune de ce nouveau risque sanitaire et les certificats médicaux prennent davantage d'importance aujourd'hui.
Jean-Luc Boujon, le correspondant d'Europe 1 en Rhône-Alpes. On l'a appris aujourd'hui, un gendarme a succombé au Covid-19, confiné depuis quelques jours. Ce sous-officier de 51 ans est décédé à son domicile, à la caserne de Maison-Alfort. La gendarmerie s'efforce de recenser toutes les personnes ayant été en contact avec ce militaire. C'est un avertissement solennel que lance l'ensemble des syndicats de police, des commissaires aux gardiens de la paix. Les représentants des policiers menacent de suspendre les contrôles du confinement, faute de masques pour se protéger. De son côté, nous signale Alain Acco du service police-justice d'Europe 1, on dénombre aujourd'hui en France 257 policiers testés positifs au Covid-19 et un peu plus de 10 000 fonctionnaires de police sont confinés. Le monde à l'arrêt et le spectre d'une récession terrible. Aux États-Unis, le nombre de nouveaux chômeurs a explosé. Plus de 3 millions de nouvelles demandes d'allocations chômage la semaine passée, du jamais vu outre-Atlantique. Ce sont principalement les industries de services comme les restaurants qui sont frappés. 5 000 milliards de dollars pour sauver l'économie mondiale menacée par la pandémie. C'est ce qu'ont promis d'injecter les dirigeants du G20, les 20 plus grandes puissances dont les dirigeants étaient réunis donc cet après-midi à un sommet en visioconférence. Alors je le disais que les économies mondiales sont en panne et souffrent. L'économie française n'échappe pas à cet énorme coup de frein. L'INSEE estime la perte actuelle d'activité à 35%. L'impact sera considérable, prévient Christopher Dambic, chef économiste chez Saxo Bank.
La note de l'INSEE n'est pas surprenante. On sait effectivement que les mesures de confinement qui ont été prises, elles ont un impact extrêmement massif sur une grande partie de l'activité économique. Ce coronavirus, c'est bien sûr un choc d'offres, mais aussi un choc au niveau de la demande. Les commerces sont fermés, personne ne consomme. En tout cas, la consommation est beaucoup plus limitée. Ce qui est intéressant dans cette note aussi, c'est qu'en filigrane, l'INSEE nous dit on n'aura pas d'effet de rattrapage en deuxième partie d'année. Concrètement, ça veut dire que les gens qui n'ont pas consommé, ils vont pas consommer davantage dès que les mesures de confinement seront levées. Parce qu'il y aura des incertitudes, notamment sur le niveau du taux de chômage. L'impact, ça va être assez évident, c'est-à-dire que la prévision de croissance du gouvernement, la contraction du PIB au cours de l'année 2020, elle sera certainement beaucoup plus marquée que ce qui est anticipé aujourd'hui par le gouvernement.
Interview signée Emmanuel Duteil pour Europe 1 et dans la foulée du sommet du G20 dont on parlait à l'instant, également aujourd'hui un sommet européen, toujours virtuel, à distance, avec pour les 27 dirigeants de l'Union un défi à relever, élaborer une riposte commune pour répondre, Isabelle Horry, au séisme économique qui menace l'Europe. Cette réunion devait être une formalité, permettre de soigner l'image d'une solidarité partagée, mais les Italiens ont voulu davantage et ne pas se contenter simplement du symbole.
Et oui Stéphane, contre toute attente, ce sommet virtuel s'est donc prolongé. Il devait durer 2 heures et il vient de s'achever, il en aura duré 6 en fait. Pourquoi ? Parce que le Premier ministre italien n'acceptait pas telle quelle la déclaration qui avait été rédigée par les diplomates en amont de la discussion des chefs d'État. Giuseppe Conte voulait l'engagement qu'il y aurait sous 2 semaines des propositions concrètes sur davantage de solidarité économique quand la crise du virus serait terminée. Il a obtenu gain de cause, selon plusieurs sources. Avec 8 autres pays, dont la France, l'Italie avait écrit une lettre hier pour réclamer la mise en place d'emprunts en commun, garantis par toute la zone euro. Cela créerait une plus forte solidarité financière, mais cela reste un tabou pour l'Allemagne et les Pays-Bas notamment. Ce soir, le e-sommet a aussi pris du temps parce que les dirigeants ont dû mener une discussion compliquée par mail ou par téléphone, étant donné qu'ils sont chacun chez eux. Alors d'ordinaire, il y a des conciliabules ou des tête-à-tête à Bruxelles, et là, la situation était totalement inédite.
Le bilan, Isabelle Horry, donc la spécialiste des questions européennes Europe 1. Merci Isabelle, vous étiez en direct de Bruxelles. Le bilan s'aggrave en Europe, c'est le continent où la pandémie progresse le plus rapidement avec 655 décès dans les dernières 24 heures. L'Espagne a franchi la barre des 4000 morts. Plus de 7500 personnes ont été tuées par le Covid-19 en Italie malgré un ralentissement de la contagion depuis 3 jours. Et c'est un tsunami continu de malades graves dans les hôpitaux publics à Londres. C'est l'expression d'un responsable britannique pour décrire la situation, une situation d'autant plus difficile à gérer que 30, 40, voire 50% des personnels soignants, selon les endroits, sont en arrêt maladie. Joanna Chabas, vous êtes la correspondante d'Europe 1 au Royaume-Uni. Les Britanniques sont confrontés à une accélération de l'épidémie.
Oui, Chris Hobson, le représentant des directeurs d'hôpitaux britanniques, parle de vagues continues de patients extrêmement malades qui ne cessent d'arriver. La propagation est tellement rapide que d'ici 2 semaines, plus aucun lit en soins intensifs ne pourrait être disponible selon les médecins. En plus, certains soignants sont eux-mêmes touchés. D'après Chris Hobson, qui parlait ce matin sur Radio 4, dans certains hôpitaux, il manque la moitié du personnel.
On se retrouve dans cette situation vicieuse où les hôpitaux essayent de gérer beaucoup plus de demandes qu'à l'ordinaire, avec beaucoup moins de personnel.
Alors le gouvernement britannique essaye de trouver des solutions pour ne pas être débordé par la rapidité de l'épidémie, notamment en créant des hôpitaux de campagne. Un centre d'exposition à Londres pourra par exemple accueillir jusqu'à 4000 malades. Mais Bojo le répète, le seul moyen de ralentir la propagation de l'épidémie est de rester chez soi. Face à l'indiscipline de certains Anglais qui continuent de sortir, les policiers viennent d'obtenir de nouveaux pouvoirs. Ils peuvent maintenant utiliser la force pour ramener les Britanniques chez eux.
Merci. Joanna Chabas en ligne depuis Londres pour Europe 1. Vous parliez des policiers britanniques. À l'instant, le ministre de l'Intérieur français vient de communiquer le nombre de verbalisations pour non-respect du confinement. 225 000 PV ont été dressés. C'est la crainte de l'effet boomerang. La Chine, qui a vu apparaître ce coronavirus, va fermer ses frontières aux étrangers titulaires de visa ou de permis de séjour en cours de validité. À partir de ce week-end également, réduction drastique des vols internationaux dans le pays. Pas question de prendre le risque de voir de nouveaux cas importés alors que depuis 48 heures, les Chinois n'enregistrent aucune nouvelle contamination. Un monsieur doux, pédagogue, humaniste, c'est l'hommage de Michel Platini à l'ancien sélectionneur de l'équipe de France de football, Michel Hidalgo. Malade depuis plusieurs années, il s'est éteint chez lui à Marseille à l'âge de 87 ans. Michel Hidalgo avait offert au football tricolore son premier grand trophée international, l'Euro, en 1984.
8 ans de travail, 8 ans de doute, 8 ans d'ambition. Tout doucement, on a grimpé dans la hiérarchie, tout doucement, on a eu un peu plus d'ambition et on est même arrivé à espérer un jour conquérir ce titre européen. On a réussi à avoir eu la préparation presque idéale. Les joueurs ont tenu le coup pendant tout le championnat d'Europe. 5 matchs, 5 victoires, c'est tout à fait fantastique. C'est à eux qu'il faut tirer un coup de chapeau. Et je suis sûr que dans leur tête va germer maintenant une autre ambition, réussir quelque chose en 86 à Mexico.
L'humilité de Michel Hidalgo. Jean-François Pérez, vous êtes le chef du service des sports d'Europe 1, sélectionneur des Bleus. Michel Hidalgo a marqué le foot français des années 80. Ce sont des souvenirs, une période faste. Un entraîneur talentueux, mais pas seulement. Il était aussi, on l'a entendu d'ailleurs, très attaché à ses joueurs qui le lui rendaient bien.
Oui, et ils avaient d'ailleurs tous ou presque tenu à lui rendre hommage. C'était le 12 février dernier dans un restaurant de Marseille, près de là où habitait Michel Hidalgo depuis plus de 30 ans. Il y avait là les héros malheureux de Séville en 82, cette sublime demi-finale de Coupe du Monde, la plus cruelle de l'histoire, perdue au tir au but face aux Allemands avec la fameuse agression de Schumacher sur Batiston. Les champions d'Europe 84, premier grand trophée du foot français, c'était lui le sélectionneur, Platini, Giresse, Tigana, Fernandez, le fameux carré magique. Ils avaient pris une dernière photo autour d'un Michel Hidalgo sur sa chaise roulante, souriant mais affaibli. Manuel Amoros, l'un des plus grands latéraux de l'histoire des Bleus, était là bien sûr, lui aussi. Il raconte pour Europe 1 ce dernier déjeuner avec celui qui l'avait lancé en équipe de France et pour qui il avait une profonde affection.
On pressentait qu'il allait bientôt nous quitter, donc dur à voir parce qu'il n'était pas très bien, il est arrivé en fauteuil roulant alors que c'était un homme, quelqu'un quand même assez dynamique dans sa vie. Et donc on a beaucoup rigolé avec lui, on a beaucoup échangé, mais malheureusement, il nous a quittés un peu trop tôt.
Michel Hidalgo avait été un grand footballeur, finaliste de la Coupe d'Europe des champions avec le stade de Reims de Raymond Coppa, son grand ami dont la mort l'avait bouleversé, puis un sélectionneur inspiré, propulsant la France dans le concert des grandes nations avec un jeu offensif qui faisait l'admiration du monde entier. À l'époque, on appelait les Bleus les Brésiliens de l'Europe, le tout avec simplicité et modestie. Avec la mort de Michel Hidalgo, le foot français perd ce soir l'une des plus grandes personnalités de son histoire, sans doute l'une des plus attachantes aussi.
Merci Jean-François Pérez. Pour clore ce tour d'horizon de l'actualité ce soir, l'innovation d'un prêtre polonais, une confession drive-in pour éviter la contamination. Il offre à ses paroissiens la possibilité de se confesser avant Pâques sans descendre de la voiture. Le curé garde lui-même son propre véhicule, la vitre baissée à 1,50 m de ses fidèles. Donc vraiment là, les gestes barrières, le respect des distances préservées, même si la confidentialité de la discussion risque d'être plus difficile à garantir. On jette un œil sur la météo avec vous, Anissa Haddadi. Le temps sera encore perturbé demain dans le sud.
Oui, effectivement, Stéphane, avec sur le quart sud-est encore demain, sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Languedoc-Roussillon, la Corse, un ciel très nuageux. Sur la Côte d'Azur et la Corse, d'ailleurs, dès demain, nous aurons des averses. Sur les Alpes du Sud et la Haute-Corse, des chutes de neige sont encore prévues demain, mais à plus haute altitude, à partir de 1300 mètres. Et puis, sur tout ce secteur, le vent du nord continue de souffler à 70 km/h demain. Sur le reste du pays, l'Aquitaine, le Limousin, le Massif central et la région région lyonnaise, là, le ciel est légèrement couvert. Et partout ailleurs, au nord de la Loire, il fait encore très beau. C'est un temps ensoleillé, des conditions anticycloniques, avec vraiment un soleil qui brille dans un ciel sans aucun nuage. Attention sur les côtes bretonnes et les côtes de la Manche, toujours ce vent du nord qui souffle et du coup qui fait baisser les températures. Donc demain, nous aurons toujours des gelées matinales, 0 à 4 degrés en moyenne sur l'ensemble du pays, 4 à 6 en bord de Méditerranée. Et puis au meilleur de la journée, les maximales sont en légère hausse, avec 11 à Cherbourg, 13 à La Rochelle, Saint-Étienne et Lille, 14 pour Besançon et Clermont-Ferrand, 15 à Toulouse et Ajaccio, 17 à Marseille et 18 la maximale pour Aubenas.
La météo signée Anissa Haddadi. Europe 1. Dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Claire Lemaître de boursier.com, juste avant l'invité écho d'Emmanuel Dutheil qui reçoit ce soir Frédéric Collet, le président du LEM, syndicat des industries pharmaceutiques. A tout de suite sur Europe 1. Europe 1. C'est l'heure à présent de faire le tour d'horizon de la bourse avec Top à Wall Street. Claire Lemaître, cela peut paraître presque étonnant. Wall Street était très en forme aujourd'hui et les indices grimpent de plus de 5%.
Oui, le Dow Jones s'envole même de 6,38%, 22 552 points. Le Nasdaq bondit, lui, de 5,6%, 7 797 points. Séance euphorique, donc, malgré la publication d'une flambée du nombre de chômeurs. Il a explosé pour dépasser les 3 millions la semaine dernière aux États-Unis. C'est une mauvaise nouvelle, hein, bien sûr, mais les investisseurs comptent sur de nouveaux plans de soutien politique et monétaire pour faire face aux dégâts liés au coronavirus. Ça monte encore fortement pour l'avionneur Boeing, plus 13%. Les valeurs bancaires aussi ont mené la hausse. JP Morgan, Goldman Sachs et Bank of America grimpent de plus de 7%. Les cours du pétrole replongent après les chiffres de l'emploi. Le brut léger américain lâche 5%. Et puis l'euro bondit de 1,4% à 1,1029 $.
Et la bourse de Paris, Claire, enchaîne une troisième séance consécutive dans le vert.
Avec un gain de 2,51% pour le CAC 40 qui termine à 4543 points. Le CAC qui remonte la pente, il a gagné plus de 12% sur les 5 dernières séances. Airbus, profite de cette embellie comme son concurrent Boeing. L'équipementier aéronautique flambe de plus de 20%. Il faut dire qu'il a perdu plus de la moitié de sa valeur en 2020 à cause du coronavirus. Et puis toujours dans l'aéronautique, eh bien l'équipementier Safran s'offre lui un bond de 10%. Ce soir.
Plusieurs grandes entreprises, Claire, cotées, ont encore suspendu leur objectif financier aujourd'hui à cause du coronavirus. Hein.
Oui, c'est le cas du distributeur Casino. Objectif suspendu pour 2020 et au-delà. Le titre gagne tout de même 1,7%. Même scénario pour Suez et pour Legrand, le fabricant de petits équipements électriques. Et ce sont des groupes qui souffrent des incertitudes sur l'impact économique de la pandémie. JC Decaux perd 0,3%. Le spécialiste de la publicité urbaine a renoncé là aussi à ses prévisions pour le premier trimestre. Les marchés montent en Europe ce soir. Plus 2,2% pour Londres, plus 1,3% pour Francfort et pour Madrid, plus 0,7% pour Milan. Amsterdam avance de 1,6% et à Paris, Stéphane, le CAC 40 gagne 2,5% à 4543 points.
Merci beaucoup. Top à Wall Street sur Europe 1. C'était avec vous, Claire Lemaître de boursier.com. Et c'est l'heure de l'invité écho avec une question qui nous préoccupe depuis le début de cette crise sanitaire d'une ampleur inédite. Risquons-nous la pénurie de médicaments? Pour y répondre, Emmanuel Dutheil, vous recevez ce soir Frédéric Collet, président du LEM, syndicat des industries pharmaceutiques.
Bonsoir Frédéric Collet.
Bonsoir monsieur.
Un grand merci à vous d'être avec nous ce soir sur Europe 1. Vous êtes le président du LEM, c'est le syndicat de l'industrie pharmaceutique. Ma première question va être vraiment très très simple. Est-ce qu'il peut y avoir une pénurie de médicaments?
Écoutez, c'est exactement la bonne question. Pour une raison simple, c'est que pendant la crise du coronavirus, il n'y a pas de répit pour les autres maladies. Et donc les entreprises du médicament doivent être mobilisées absolument sur tout leur métier. Et notre métier, il est d'abord d'assurer la disponibilité des traitements que les patients français attendent chaque jour. La deuxième, qui est importante, c'est de pouvoir produire ces traitements et d'assurer la continuité de la production. La troisième, c'est bien sûr tout ce que nous faisons dans le domaine de la recherche et du développement de nouveaux traitements. Et puis enfin, essentiel, c'est d'assurer le bon usage. Comment assurer que les médecins ont toute l'information disponible pour assurer que le bon traitement arrive au bon patient dans les bonnes conditions.
Alors si on reprend certains de ces points, par exemple le deuxième, assez de personnes pour produire. Aujourd'hui, vous êtes vous-même un patron d'un grand laboratoire en France. Est-ce que vous avez assez de monde pour produire ?
Là aussi, la question est importante parce que nous avons renvoyé en télétravail tous les personnels qui travaillent au siège. Pour autant, la production est un métier très particulier qui nécessite que les personnels qui sont qualifiés soient sur ligne pour assurer la production. Et pour ça, il faut trois choses. La première, il faut bien entendu que nous ayons les personnels sur site. Pas plus, mais pas moins que ceux qui sont nécessaires. Et donc, il faut que ces personnels puissent travailler dans les meilleures conditions et en particulier qu'ils soient équipés et notamment de masques et de combinaisons, de façon à ce qu'ils puissent assurer leur métier dans des conditions de sécurité optimales. Quand vous visitez...
Et c'est le cas, vous avez tout ce dont vous avez besoin ?
Aujourd'hui, nous l'avons, c'est un sujet de grande vigilance et les entreprises du médicament sont en train de travailler justement pour assurer un approvisionnement rapide en masques en particulier et en combinaison pour ces personnels qui en ont besoin. C'est une question de qualité. Quand vous visitez un site de fabrication de médicaments, la première chose, c'est qu'on va vous remettre, on va vous équiper pour que vous puissiez aller à proximité de ces lignes. Cette condition est absolument sine qua non à la continuité de la production de tous ces traitements qui sont essentiels chaque jour.
De ce que je comprends, est-ce que malgré tout, aujourd'hui, vous pouvez nous dire ce soir, là, sur Europe 1, c'est très tendu, mais il n'y a pas de raison que nous n'y arrivions pas à faire l'approvisionnement des médicaments, de tous ceux qui en ont besoin, parce que c'est un point très important de ce que vous dites. Il y a ce drame du coronavirus, mais il y a tous les autres malades de France.
Bien sûr. Aujourd'hui, je vous ai dit, dans les quatre métiers que nous assurons, celui de l'approvisionnement est essentiel. Et nous travaillons soit à titre de laboratoire, de façon indépendante, soit au titre du LEM, donc du syndicat des entreprises du médicament, avec les autorités de santé, chaque jour, j'ai envie de dire quasiment chaque heure, pour nous assurer de la continuité de la disponibilité des traitements. Et c'est ce que nous faisons notamment avec la NSM et la DGS aujourd'hui. Je n'ai pas, à l'instant où nous nous parlons, de signaux de rupture ou de signaux qui me préoccupent. Néanmoins, il faut bien avoir en tête que cette crise suscite des besoins absolument exceptionnels sur certaines aires thérapeutiques dans lesquelles nous n'attendions pas.
Et donc, je pense que là-dessus, on peut prendre l'exemple de la chloroquine, c'est-à-dire qu'on connaît mieux sous le nom de Nivakine pour ceux qui jusque-là voyageaient.
Par exemple,
ça, typiquement, il va falloir que l'État régule la consommation pour que vous arriviez à produire en nombre suffisant.
Par exemple, ça peut être l'État, ça peut être également l'Organisation mondiale de la santé qui peut elle aussi souhaiter de réguler au niveau global cet approvisionnement. Mais c'est un exemple parce que effectivement, une crise comme celle-là crée naturellement dans la chaîne d'approvisionnement des tensions là où elles ne sont pas attendues. En principe. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes extrêmement vigilants. Et si vous me posiez la question de savoir ce sur quoi je porte mon attention le plus pour l'instant, c'est celui d'assurer la continuité de la production des médicaments, quels qu'ils soient. Parce qu'encore une fois, pendant la crise, il n'y a pas de répit pour les autres maladies.
Alors, il n'y a pas de répit pour les autres maladies, mais est-ce que vous arrivez aussi à livrer, puisqu'on entend beaucoup là en ce moment hein, toute cette problématique des chauffeurs-livreurs qui s'estiment pas suffisamment protégés. Vous avez une chaîne logistique qui est sérieuse et qui tient aujourd'hui ?
Alors la chaîne logistique, elle tient bien, en particulier la chaîne des grossistes-répartiteurs permet de couvrir très bien le territoire. Ils font un travail aujourd'hui absolument exceptionnel et de la même façon que je veux rendre hommage à toutes les équipes qui travaillent sur ligne pour assurer la production, je veux également tirer un grand coup de chapeau à toutes ces équipes qui, sur le terrain, assurent la livraison, en particulier des pharmacies et des hôpitaux, chaque jour, quasiment chaque heure, pour que les bons traitements soient rendus disponibles dans les meilleures conditions.
Cette crise, elle oblige aussi la France et l'Europe plus généralement à réfléchir à peut-être une nouvelle indépendance au niveau de la production des médicaments, puisque vous le saviez mieux que personne, mais à l'aune de cette crise, on a découvert que tout ce qui permet de fabriquer un médicament, grosso modo, était fabriqué en Chine, si je caricature beaucoup. On va relocaliser en Europe et en France ?
Vous avez raison que cette crise pose cette question de l'indépendance. C'est intéressant parce qu'on est très souvent très attentif aux questions d'indépendance énergétique. En revanche, on oublie celle de l'indépendance sanitaire. Or, l'indépendance sanitaire est un enjeu stratégique absolument essentiel pour un pays. Donc aujourd'hui, effectivement, la question du sourcing, la question de l'approvisionnement de ces matières premières et de ces produits finis en Europe, parce que c'est un sujet européen et pas un sujet français, c'est un sujet européen, sera abordé à la sortie de la crise et nous devrons voir tous ensemble comment nous l'assurons.
Mais c'est-à-dire qu'on peut s'attendre à des relocalisations d'après vous ?
Ah oui, certainement.
Eh bien, merci beaucoup Frédéric Collet, le président du LEM, le syndicat de l'industrie pharmaceutique, d'avoir été avec nous ce soir sur Europe 1. Grand merci à vous.
À demain, Emmanuel Duteil. Dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens, les sujets que nos confrères de la presse écrite mettent à la une. Donc demain, à tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. La libre antenne d'Europe 1 est à votre écoute dans quelques instants. La libre antenne, c'est votre moment d'écoute, de partage et de confidence.
Pour joindre Olivier Delacroix, appelez dès maintenant le 3921. 50 centimes la minute.
À tout de suite sur Europe 1.